Bonjour à tous et à toutes, il est 20h et tout de suite c'est En eau trouble sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Tu devrais prendre un peu sur toi.
Tu n'es pas objective.
Non mais faut arrêter d'y penser.
T'as pensé à la méditation ? Inutile d'avoir peur.
Tu es juste fatiguée.
Calme-toi.
Moi, à ton âge, tu t'écoutes trop, pas de raison de stresser.
Respire. Tu exagères.
Quand on a faim, on mange, c'est tout. Bah, si j'étais à ta place...
En eau trouble, c'est le podcast qui vogue sur les eaux brumeuses du psyché, le jeudi à 20h en bimestriel sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Le sommeil, ou plus précisément son absence, est au programme de cette première émission. Entre nuit blanche et longue introspection personnelle, quand l'insomnie s'installe dans un quotidien, peut-elle nous définir, déterminer nos vies ? Libérons la parole et libérons l'écoute, levons le voile sur certains de ces troubles incompris. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le premier épisode d'En eau trouble, le jeudi à 20h en bimestriel sur Radio Campus Paris 93.9 FM. En eau trouble, on se perd, on se noie. On voyage aussi, souvent seul, non sans mal, ça, c'est certain. On se découvre, on s'apprivoise. Survivre en eau trouble, c'est compliqué. D'autant qu'on est seul à bien connaître ce point d'eau. La régularité de ses vagues, ses courants contraires, la source dans laquelle elle puise son origine. Chacun ses troubles, chacun son vécu. Comment se jeter à l'eau quand ses problèmes nous sont inconnus ? Comment faire entendre sa réalité lorsqu'on est bien seul sur son radeau ? Troubles anxieux, de l'humeur, de l'alimentation, du sommeil, ils sont nombreux et prennent une place centrale dans la vie d'un grand nombre de personnes. Le podcast se composera de 5 épisodes, 5 témoignages dédiés à celles et ceux qui veulent sortir du silence et parler de leurs ressentis, de leur parcours. En eau trouble, c'est également pour les familles, les amis, collègues, partenaires qui aimeraient comprendre, accompagner ou tout simplement apprendre à écouter un peu mieux. Pour cette première interview dédiée aux troubles du sommeil, Lou vient nous parler de sa vie avec l'insomnie. Salut Lou !
Hello !
Ça va ?
Oui, ça va.
Bien installée ?
Très bien installée.
Petite pression quand même ?
Petite pression parce que c'est le premier épisode que bon, je ne suis pas non plus très habituée à faire ça et du coup voilà.
Ça va très bien se passer.
Oui.
J'ai toute confiance. Donc tu viens nous parler aujourd'hui insomnie.
Exactement.
Pour ce tout premier épisode. Alors du coup je rappelle rapidement le concept de l'émission. Donc ça va être un invité par thématique pour chaque trouble, donc là tu vas nous parler troubles du sommeil, qu'on va diviser en 3 parties, donc une première large présentation de tes troubles,
okay.
Donc à peu près le parcours, par quoi t'es passé, quand est-ce que ça a commencé, où ça en est aujourd'hui, sa place dans ton quotidien, qu'est-ce que tu mets en place pour mieux le vivre, à quel point ça peut venir t'handicaper dans ta vie tous les jours, et enfin,
le plus sympa,
et les autres,
okay.
Comment ça se passe avec les autres, donc avec les collègues, avec les amis, la famille, le conjoint.
Ça marche.
C'est ça qu'on aime.
Ok.
On commence ?
C'est parti.
C'est parti. Alors du coup, je vais te laisser nous présenter un petit peu ton trouble. Pourquoi est-ce que tu viens nous parler aujourd'hui, très exactement ?
Alors il faut savoir que j'ai toujours mal dormi, littéralement depuis que je suis petite. Je pense que c'est un truc qui a été acté. Tu vois, à la naissance, on a dit, toi, t'auras telle qualité, mais par contre, t'auras un sommeil de merde. Genre, et du coup, je pense que c'était prédestiné. J'ai toujours eu un sommeil très agité, des réveils constants, des moments où je restais tel un hibou dans mon lit et que je dormais pas. Et avec le temps, ça continue de m'accompagner. J'ai eu beau tenter plusieurs choses, etc., ça reste avec moi et je vis avec au quotidien. Et du coup, voilà.
Alors, il faut savoir qu'on a enregistré une première fois cette émission l'année dernière,
oui,
avec mon matériel. Le résultat était assez médiocre.
Non, enfin, c'était pas médiocre.
Le contenu était très intéressant, mais la qualité son était vraiment caca. On s'est dit, pas de problème.
Tu peux dire que j'étais médiocre.
On s'est dit, pas de problème, donc on va le refaire. Donc du coup, il s'est passé un an.
Ouais.
Depuis le premier témoignage, et c'est vrai que quand on avait discuté de refaire cet enregistrement, tu m'avais dit c'est très bien qu'on le refasse, parce que je suis beaucoup plus détendue sur la question.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est assez drôle parce qu'il y a un an, j'étais vraiment, au moment de l'enregistrement, j'étais vraiment dans une phase où mon sommeil était catastrophique, encore plus que d'habitude. Et à base de, on va dire sur 7 nuits, t'endors mal 5, voire toutes les nuits, tu dors pas bien, voire pas. Et c'était assez horrible. Donc en parlant, j'étais peut-être un peu plus amère. Là, en ce moment, c'est un peu mieux. Disons que c'est moins hardcore qu'il y a un an. Même si c'est pas encore un sommeil exemplaire, j'ai clairement un peu mieux faire sur mon bulletin du sommeil, mais voilà. Et du coup, ouais, c'est assez marrant de réenregistrer cet épisode et d'être dans une autre phase de ce trouble, en gros. D'être un peu plus apaisé, je pense pas que c'est le mot non plus, mais un peu moins, c'est un peu moins dur.
Tu saurais dire pourquoi ça a évolué ? Tu vois à peu près des signes
En vrai,
un mode de vie, je sais que t'as déménagé il y a pas longtemps.
Bah alors, le déménagement doit jouer un petit peu, parce que l'endroit où on est un peu plus calme, un petit peu plus... je pense que c'est un peu moins... je suis un peu moins sollicitée à l'extérieur par les bruits, les trucs, etc. Mais en fait, je sais que j'ai un sommeil, si je suis genre vraiment écroulée de fatigue, s'il y a du bruit autour, je sais que je pourrais quand même m'endormir. C'est en fait plus par la suite, pendant la nuit, où j'ai systématiquement ces moments de réveil, ces moments de qui restent, enfin où je suis constamment en éveil et mon cerveau est comme en ébullition et en train de penser à 12 000 choses et où je peux pas retrouver l'apaisement et du coup me rendormir. Et je pense que le déménagement du coup aide un peu à ce que je sois plus apaisée. Après, mon cerveau turbine toujours autant, donc je pense pas que ça... Enfin, malheureusement, il n'y a pas eu moult changements, parce que sinon, après, dans un cadre pro où il n'y a pas non plus 12 000 choses qui ont bougé, donc je saurais pas dire, pointer du doigt exactement d'où vient le fait que là, maintenant, je dors un poil mieux.
Voilà. Tout comme tu saurais pas dire à partir de quand est-ce que ça a commencé. Tu vois pas de déclencheur jeune?
Non, j'ai pas. En fait, c'est un peu la légende de famille. C'est-à-dire que donc j'ai une grande sœur. Ma grande sœur, elle ne mangeait pas. Enfin, était chiante pour manger, mais dormait excessivement bien. Moi, je m'empifferais littéralement. J'étais un vrai glouton. Mais par contre, je ne dormais pas. Enfin, tu vois, c'était vraiment chacun à sa tare à la naissance. La petite fée s'est penchée au-dessus du berceau et a dit hop là. Et du coup, voilà. Et en fait, c'est un truc qu'on m'a toujours rabâché après en grandissant, en mode « bon, t'as toujours mal dormi de toute façon », tu vois, genre c'est un peu le truc comme ça. Et en même temps, j'avais cette réputation de la fille qui se couche giga tôt tout le temps, mais par contre qui a derrière un sommeil de merde et qui se réveille excessivement tôt aussi. Ça, c'est depuis l'enfance, constamment.
Mais quand est-ce que t'as eu le déclic du fait que ce serait potentiellement un problème dans ta vie ? Parce que si tu grandis avec, tu peux vite te dire que c'est la norme.
Ouais.
Mais quand est-ce que tu t'es dit, bon, peut-être qu'il y a un petit souci en termes de sommeil, ça va peut-être commencer à devenir un peu pénible, surtout que bon, on en parlera par la suite, quand on parlera un peu du rapport aux autres. Mais effectivement, tu t'es pris du coup pas mal de remarques sur la question, pas mal de questionnements, donc est-ce que toi t'as commencé à faire un cheminement pour essayer de comprendre ce qui se passait ? Pourquoi est-ce que tu vivais ça ? Et comment est-ce que t'as fini par accepter l'idée que bah... Pour l'instant, t'aurais pas un sommeil comme les autres et que c'était comme ça ?
Bah, en vrai, je pense que le déclic vient vachement de l'image qui m'était renvoyée par les autres. Mais ça, comme tu l'as dit, on l'évoquera un peu plus tard. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte que socialement, ça pouvait m'handicaper. Que ça a été un peu le déclic de se dire « Ah merde, bah, putain... » C'est con, mais quand tu vois autour de toi les gens qui sont capables de faire... Enfin, ça paraît tellement être un problème nul dit comme ça, mais quand tu vois les gens qui sont capables, tu sais, de faire des putains de grasses matinées, de se coucher très tard, mais derrière, en fait, le lendemain, ils savent qu'ils vont pas se lever avant 14h, donc ils ont pas trop de problèmes à se poser. Et du coup... Attends, je sais plus où j'en étais. Merde.
T'étais jaloux des gens qui arrivent à dormir.
C'est vraiment horrible de dire ça comme ça, genre d'être jaloux des gens qui savent dormir. En fait, j'envie votre sommeil. Mais en fait, c'est juste que constamment, j'avais l'impression qu'autour de moi, avoir envie d'aller se coucher tôt parce que tu sais que derrière, tu vas beaucoup te réveiller, tu vas avoir, enfin, pas pouvoir te rendormir derrière, c'était hyper frustrant. Tandis que les autres, tu savais que bah, ils allaient juste dormir et faire un coma de 12 heures quand toi, t'es, genre, des fois, t'es nuit et c'est 3 heures, tu vois, t'es en mode genre l'injustice est totale, donc voilà. Et du coup, pour le déclic, ouais, je pense que c'est juste en grandissant, quand tu te rends compte que socialement, ça devient un peu un frein, où là, tu vois, ça t'impacte et tu te dis, en fait, peut-être que c'est un souci, que ce qui était peut-être des moqueries un peu bon enfant quand t'étais plus jeune, avec le temps, tu sens que ça a fini par t'handicaper.
Mais tu penses que t'as souffert de ces idées reçues ? Enfin, dans le sens où, est-ce que t'as fini par te dire que c'était une sorte de défaut, en fait, comme un autre ? Parce qu'en fait, à force de te prendre des remarques, des critiques, tu finis par te dire, enfin, ça se trouve, c'est juste un défaut. Enfin, je le vois dans mon cas pour l'anxiété. À force d'entendre que, que je suis une personne peureuse, que je suis une personne qui se pose trop de questions.
Vous
que...
n'êtes pas une personne peureuse.
mais c'est vrai qu'à force de se poser ces questions, quand j'étais plus jeune, j'avais vite tendance à me dire que c'était mes défauts. Genre, c'est quoi tes défauts ? J'ai peur.
Non. Alors, je ne l'ai jamais présenté comme ça. Tu sais, je n'ai jamais dit... bonjour, mes qualités et mes défauts. Alors, dans mes défauts, il y a que je dors super mal. Genre, non, ça, je l'ai jamais vécu comme ça. Genre, c'était plus un truc, je pense, que j'avais envie un peu de cacher. Genre, ça paraît bizarre dit comme ça. Mais en fait, typiquement, en soirée, t'as pas envie d'être la meuf rabat-joie ou la grand-mère qui va se coucher super tard parce qu'en fait, elle sait qu'elle a une dette de sommeil à éponger et qu'en fait, elle va aller dormir 2 heures et en fait, son insomnie va la réveiller, donc elle va potentiellement repop dans la soirée vite fait et puis, enfin voilà, ça n'a aucun sens. Donc, genre, je sais que parfois, je me suis, je pense, privée de certains événements parce que je savais pas comment j'allais le vivre et parce que j'avais de l'anxiété liée à mon sommeil, du coup, à la problématique du sommeil qui me popait dans le cerveau et où j'arrivais pas à m'en détacher, quoi.
Et du coup, tu t'es posé la question d'une prise en charge ou pas du tout ? Parce que c'est vrai que, alors, vu de l'extérieur, moi, j'ai pas un sommeil hyper, hyper solide, mais heureusement, je subis pas les insomnies régulièrement. Mais du coup, on est tenté de se dire, est-ce qu'on passe sur des somnifères ? Est-ce qu'il y a des prises en charge, des médicaments, des médecins ? Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne.
En vrai, on a déjà des fois abordé le sujet, même un peu vite fait, genre avec ma mère, en mode « Oh là là, tu dors quand même super mal, il faudrait peut-être, faire un truc et tout. » Et en fait, c'est chiant parce que concrètement, tout le monde sur... Enfin, je pense qu'il n'y a pas une personne dans ce monde qui n'a pas eu au moins une fois dans sa vie une nuit de merde. Je pense qu'on est, on est tous confrontés à ça. C'est juste la récurrence qui en fait un plus gros problème. Mais en fait, je pense que c'est un trouble qui est à la fois reconnu, parce que par exemple, je crois en France, il y a au moins 15 ou 20% de personnes qui sont sujettes aux insomnies, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, ça fait quand même pas mal de monde. Mais le truc, c'est que je pense qu'on a souvent tendance à le minimiser en mode un peu oh, t'as fait une mauvaise nuit quoi. Et c'est juste que du coup parfois les gens n'ont pas conscience que quand c'est quotidien ça peut vite être handicapant genre mais du coup par exemple moi je sais que j'ai pas passé le cap de voir un spécialiste ou ce genre de truc. J'ai essayé plein de petits trucs à la con les gens qui te disent « Mais t'as pas essayé la méditation avant de dormir ?» ou « T'as pas pris des gouttes de CBD et je sais pas quoi ?» Enfin, j'ai essayé le CBD, c'est un goût de vieux pied et en plus ça marche pas, donc non, ça marche pas, c'est nul. Donc voilà. Et du coup, en fait, il y a un côté un peu résignation derrière, en mode « de toute façon, t'es condamné à mal dormir, c'est comme ça. » Et en plus, tu vois, quand tu lis des trucs sur le sujet... C'est bon, non seulement t'as, 20% de la population en France qui dort mal, la plupart du temps, ça touche vachement les femmes, la charge mentale. et en plus, ils te rajoutent que quand tu vieillis, ça empire. Donc je suis là en mode, mais en fait, les gars, si un jour j'atteins les 80 ans, je dormirai juste plus, tu sais, genre, ou je ferai comme les chevaux, je dormirai que 2 heures.
C'est un joli hibou.
Voilà, c'est ça. Non, mais enfin, voilà, bref, c'est. Donc non, j'ai pas passé le cap, après je pense qu'il y a aussi vachement de trucs liés à l'anxiété qui se répercutent aussi sur le sommeil, et donc est-ce que si je voyais une psy pour en parler, peut-être que ça débloquerait des choses ? Je ne sais pas, mais je n'ai pas passé le cap encore.
Du coup, t'as commencé à répondre à la question, mais pour clôturer cette première partie, est-ce que tu penses que la société dans laquelle tu vis est suffisamment avertie sur ces questions ?
Averti du moins au courant, oui, Enfin, je pense que tout le monde a conscience que les insomnies, ça existe. Comme je disais, il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas des fois eu des insomnies. Je pense que c'est impossible de ne pas en avoir au moins une fois. Mais après, qu'il soit assez tolérant envers le sujet, ou du moins le prendre au sérieux, je suis pas sûre que tout le monde soit hyper genre à l'écoute sur le sujet, quoi.
Rappel définition. L'insomnie est un manque ou une mauvaise qualité de sommeil qui retentit le lendemain sur les activités diurnes, physiques, psychiques et sociales. Les principales causes de l'insomnie chez l'adulte sont le stress, l'anxiété et la dépression. Les insomnies peuvent être également liées à d'autres facteurs comme une mauvaise hygiène de vie, elles peuvent également être présentes dans diverses maladies comme l'hyperthyroïdie. Elle peut être ponctuelle et occasionnelle survenant à la suite d'un événement perturbant, contrariété, deuil, maladie, ou quelquefois plus durable. On parle d'insomnie chronique lorsque les troubles se produisent plus de 3 fois par semaine depuis plus de 3 mois. Pour citer quelques chiffres, en 2017, 16,9% des femmes souffraient d'insomnie chronique contre 9,1% des hommes. Chiffres issus du site de la Haute Autorité de Santé et Institut National du Sommeil et de la Vigilance. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Tu vas nous parler un peu plus de tes insomnies, dans le quotidien, à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'on vit avec ça, qu'est-ce qu'on met en place pour le vivre un peu mieux. Donc je vais te demander dans un premier temps de nous parler d'une insomnie type. Donc pas une insomnie qui t'a marquée, parce que comme tu as pu me l'expliquer, elles sont toutes de toute façon à peu près pareilles.
Oui.
Donc c'est juste nous en présenter une, histoire qu'on se fasse une idée un peu plus claire de à quoi ça ressemble une nuit chez Lou.
Alors... Si je devais décrire une de mes insomnies, parce qu'elles ont à peu près toutes le même schéma, il y a quelques chemins divergents parfois, mais c'est souvent assez répétitif. En général, je chope mon train du dodo, qui est, on va dire, aux alentours de 22h30, un truc comme ça. Et souvent, en fait, je vais bien dormir jusqu'à, je sais pas, entre minuit et une heure. Et après, je me réveille comme si j'avais fait... Genre, je sais pas, une nuit de 8 heures et que j'étais « Wouhou, c'est bon, je suis réveillée et une nouvelle journée peut commencer. » Et alors là, c'est là où je dis qu'il y a des fois des chemins divergents. C'est soit je vais rester éveillée, je vais commencer à réfléchir à 12 000 trucs en mode « Ah, punaise, j'ai oublié de faire ça aujourd'hui, il faudra que je fasse ça demain. » Et puis il y a aussi ça, et puis il y a tel truc qui arrive dans tant de jours, etc. Et je vais me mettre à beaucoup cogiter. Mais avec un peu de chance, je vais réussir à retrouver le sommeil. Soit ça turbine trop fort et je sais que là, je vais juste rester éveillée tel un hibou pendant des heures et des heures et ne pas retrouver le sommeil. Et ça, c'est vraiment les pires des insomnies, vraiment.
Mais ça a un impact sur ta journée parce que vu de l'extérieur, on a encore ce cliché du la personne qui n'a pas dormi de la nuit, elle arrive avec des cernes énormes au travail en mode ne me parlez pas, je suis à bout. Et pourtant, donc, moi j'ai la chance de travailler avec toi, donc je peux témoigner auprès de nos auditeurs et auditrices, tu pètes la forme au travail, même si tu dors pas, tu pètes la forme.
Et bah, parce que en général, comme je l'avais dit un peu au début, je suis vraiment quelqu'un du matin, c'est-à-dire que j'ai mon pic d'énergie le matin, je suis vraiment littéralement comme une poule, c'est-à-dire que je me couche et me lève en fonction avec le soleil, donc du coup... Une fois que le soleil est levé, en fait, c'est bon, ma journée, elle commence et let's go, tu vois. Genre, du coup, j'ai ce pic d'énergie-là dans la matinée et c'est plus tard dans la journée, au fil de la journée qui passe, que je vais ressentir les effets de la fatigue et de cette dette de sommeil qui arrive derrière moi pour me rattraper, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler rapidement de tes techniques d'évitement ? Donc, par technique d'évitement, j'entends des stratégies mises en œuvre pour te préserver de tes troubles.
Je suis déjà clairement pas quelqu'un qui sort énormément. J'aime bien être dans mon petit terrier tranquille et apaisé. Et je pense que bah, du coup, c'est lié en partie à ce cumul de manque de sommeil où en fait, même si je dors pas, j'aime bien ce côté de me dire « je vais me reposer ». C'est genre s'endormir, mais au moins t'as ce côté où t'es tranquille chez toi, tu rends compte à personne et tu peux juste genre... chill, et au pire, si d'un coup, bah, t'étais prise d'une sieste fulgurante, tu pourrais la faire si tu voulais, tu vois, enfin, genre, il y a ce côté un peu, donc je pense que les sorties, les soirées, des fois, enfin, c'est vraiment en fonction du mood, et accessoirement du coup, en fonction de la nuit que j'aurai passée, ça va vachement jouer sur ma présence ou non.
Oui, puis il y a le côté aussi batterie sociale dont tu parles souvent. Il n'y a pas que la question du sommeil.
C'est ça.
Il y a aussi, il y a aussi des moments où que je dorme ou pas, il faut que je sois seule et c'est ça, c'est nécessaire.
Exactement. C'est pour ça que je disais, genre, ouais, j'aime vachement ce côté un peu privilégié dans mon terrier avec moi-même parce qu'il y a ce côté, enfin, les gens me demandent de l'énergie. Genre, j'aime les gens, mais...
J'adore les gens.
Mais c'est juste que je sens, en fait, au fur et à mesure, et enfin, c'est ça qui est génial maintenant quand tu vas, enfin, que ce soit sur Insta, sur TikTok, etc., quand tu regardes plein de reels de gens qui parlent de batterie sociale, mais je trouve ça tellement vrai et tellement important d'en parler parce que du coup, ça... Enfin, ça fait écho directement à ton expérience à toi et t'es là en mode « Ouais, là, en fait, je le sens pas. Je pense que si j'y vais, je vais trouver tout le monde relou. Tout le monde va me faire chier et je vais passer un mauvais moment et du coup, je préfère me préserver de ça et je me dis « Bon, bah, là, en fait, je vais juste rentrer chez moi et être tranquille. »
Et en même temps, c'est pas si évident parce qu'en fait, tu parlais tout à l'heure des clichés qui collent à la peau, critiques. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Alors, sûrement, on a commencé à devenir amis. Mm. Mais avant ça, moi, il fallait à tout prix que je sois à toutes les soirées tout le temps, que je sois toujours au top tout
le
temps.
Je dois être visible.
Voilà, c'est ça. Et c'est avec toi que j'ai appris que, en fait, c'est important aussi de trouver ses limites
et de dire
sur
non.
Les soirées, sur les sorties. Et qu'en fait, quand on le sent pas... Et ben on sort pas. Et d'ailleurs, si j'ai envie de rentrer à 23h, je rentre à 23h.
Exactement.
Et c'est comme ça. Et c'est hyper important de rester au clair là-dessus.
Ouais,
parce que
je suis d'accord.
C'est ce qui te permet aussi de tenir le coup, mm-hmm. en fait.
Et c'est, enfin, ça, clairement, c'était pas un truc inné. Au début, c'est des trucs que j'ai vachement, vachement subi, fait subir à moi-même au début en me disant ouais, mais en fait, si j'y vais pas, on va trouver que je suis chiante, on va trouver que je fais jamais rien, on va me redire que je suis genre casanière et tout ça. Et en fait, tu sais, on te présente ça comme des défauts. Au bout d'un moment, t'as juste envie de dire aux gens « Mais en fait, si j'ai pas envie de vous voir, c'est pas que je vous aime pas ou quoi. C'est juste, là, j'en ai pas envie. J'ai besoin d'être tranquille. Juste, ne le prenez pas mal. »
Mais du coup, le confinement a dû être un moment fabuleux.
Oui, en vrai, tu vois, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont hyper mal vécu. Enfin, ça reste une pandémie mondiale, c'était horrible. Hein, ça a amené plein de trucs négatifs. Mais dans mon cas, au moins, j'étais... Je vivais un peu ma meilleure vie dans ma tranquillité. En plus, on était du coup chez les parents de mon mec à ce moment-là qui ont une maison, un chien, des poules, tout ça. Enfin bref, on pouvait sortir dans la forêt à côté. Enfin je veux dire, il m'en fallait pas beaucoup plus pour être heureuse et ça ne m'empêchait pas de faire aussi des insomnies là-bas, voilà. Mais enfin, au moins il y avait cet aspect de tranquillité sociale qui, honnêtement, n'était pas à déplorer, donc ça va.
Si je m'attarde sur le confinement, c'est qu'il est évident que le changement brutal d'un rythme de vie a un impact direct sur le sommeil. Je l'ai constaté chez mes proches, mais la question apparaît également dans un grand nombre d'articles. Article du Monde, 26 mai 2020. En cette période de confinement, mars 2020, 66% des répondants ont dit avoir eu un sommeil troublé dans les 8 derniers jours. Ils étaient un peu moins fin mars, 61%. Mais du coup, j'en profite pour revenir sur tes bulles de protection.
Mm-mm.
Des vidéos, des musiques, la bouffe, ce que tu veux.
Bouffe pas spécialement, mais...
À part l'huile de CBD au pied, qu'on déconseille vivement sur l'émission.
Non mais ça c'est une frustration totale. Genre vraiment, à chaque fois, tu sais, je vois des gens en faire un peu la promo, parler du truc comme quoi c'est miraculeux et trop génial. Et je suis là en mode, mais arrêtez de mentir, c'est vraiment nul. Enfin, je suis ravie que ça puisse aider des gens et vraiment qu'ils y voient un effet, etc. Mais j'en ai essayé... Je crois en plus 2-3 différentes. Et vraiment, c'est le constat est le même. Hein, ça ne marche pas.
C'est nul.
Ouais, voilà. Mais du coup, voilà. Et donc, je ne recommanderais pas ça, déjà. Le truc idéal, pour moi en tout cas, c'est vraiment l'ASMR. Je sais qu'il y a... Voilà, tu es déjà en train de rigoler de moi. Super. Je sais qu'il y a deux écoles.
Je ne rigole pas de toi. Je rigole de... tellement de vidéos que j'ai pu voir
mais non,
passer.
Mais parce que t'as les mauvaises vidéos ASMR, c'est sûr que si tu vois des gens, je sais pas, écraser de la bouffe avec leurs pieds en faisant de l'ASMR, oui, mais c'est pas très satisfaisant.
Je pense plus, tu sais, au... Ah putain, tu sais, quand ils essayent de te faire genre, ils sont dans une profession
en mode j'en vois une parfois qui faisait comme, si, comme si elle était ophtalmo.
Ouais.
Mais je trouve ça instantanément sexuel, chelou. Non, mais t'sais, tu la vois à son micro en train de te dire « Bonjour, tu viens refaire tes lunettes. Aucun problème, rapproche-toi du micro. »
Mais il n'empêche que t'as vraiment la voix pour faire de l'ASMR. Alors, non mais je peux comprendre que ça cringe des gens, genre vraiment, mais il faut en fait je pense qu'il faut faire un tri. Il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui fonctionnent pas, et puis en fonction de chaque personne. Mais attends, excuse-toi auprès de tous les misophones de France qui ont détesté ta partie ASMR.
Mais quoi?
Les misophones, c'est ceux qui vraiment que ça énerve profondément l'ASMR, genre en mode c'est instantané, c'est ouais.
Ça
ouais, ce genre okay. de truc.
Pardon. Mais alors ça te fait quoi l'ASMR? Pourquoi c'est si bien l'ASMR?
L'ASMR, vraiment, c'est que c'est... Même si je ne vais pas nécessairement m'endormir en écoutant, c'est que ça m'amène un apaisement mental qui est colossal. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en train de penser aux 15 000 trucs que j'ai à faire le lendemain ou dans la semaine, en fait, mon cerveau va juste se mettre sur off et il y a un côté un peu hypnotisant de juste tu te laisses guider, quelqu'un te parle ou il y a des bruits juste qui sont... Enfin, que tu trouves satisfaisant. Je ne saurais pas comment expliquer, mais tu sais, genre, t'as vraiment certains bruits, que ce soit des bruits d'eau ou des bruits, je sais pas, de tapping sur du bois, où tu vas te dire, oh là là, je sais pas pourquoi, mais là, genre, il y a des petits picotis dans mon cerveau et je suis très apaisée. Et ça s'explique pas, tu vois, mais enfin, comme je peux comprendre des gens qui détestent ça, enfin... Par exemple, si quelqu'un venait me mâchouiller dans l'oreille, mais en vrai, dans la vraie vie, je pense que je lui dirais d'aller se faire cuire le cul. Mais tu vois, c'est... Enfin, mais c'est juste que, genre, quand c'est fait, parce que c'est fait d'une certaine manière dans une vidéo qui est là pour te détendre, ça a une... Genre, voilà, je sais pas, ça a une autre dimension. Bref.
Bon, vous mettrez un petit extrait si vous êtes sage. Et du coup, pour conclure cette deuxième partie, à quel point dirais-tu que tes troubles ont influencé tes choix de vie ? Que ce soit les études, le travail, l'appartement.
En vrai, alors pour mes choix de vie. Alors il faut savoir que du coup j'ai deux activités. Je suis à la fois vendeuse et en même temps je suis illustratrice. Donc j'ai une partie du temps où je suis vraiment en contact avec les gens constamment et assez sollicitée, genre socialement parlant, et une autre partie où je suis chill chez moi et comme ça en fait je bosse avec moi-même. Souvent j'ai quand même genre je sais pas Twitch en fond et je papote avec des gens etc machin, mais ça, je me suis rendu compte que ça correspondait à mon, ça matchait vraiment bien avec mon rythme de vie, dans le sens où je suis pas complètement une ermite parce que j'ai besoin d'avoir quand même une présence et un contact avec les gens parce que ça m'amène de la joie et genre de la satisfaction, etc. Et en même temps, je sais que je pourrais pas le faire à plein temps. Tu vois, il y a une partie de moi qui a besoin aussi de cette partie de solitude pour me sentir plus apaisée avec moi-même et plus... et pouvoir en fait me déconnecter, c'est très satisfaisant.
La deuxième partie touche à sa fin. Et avant de passer à la suite, voici une petite page musicale.
Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles, petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là. Je
C'était un extrait de Ceux qui rêvent, de Pomme. Vous écoutez En eau trouble, l'émission qui vogue sur les eaux brumeuses du psyché, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. On va passer du coup à la troisième partie, qui est sûrement la plus sympa. Et les autres. C'est aussi quand même beaucoup pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui, oui. Parce que tous ces troubles ont encore tendance à semer beaucoup de clichés, beaucoup de critiques. Donc on est surtout là aussi pour libérer la parole, mettre à mal un petit peu tous ces clichés, extérioriser un petit peu tout ça. Et du coup, bah, effectivement, donner une nouvelle visibilité à ces troubles et faire en sorte qu'ils soient davantage écoutés et surtout respectés. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti concernant le regard de l'autre vis-à-vis de ton trouble ?
Alors, si on fait un peu ça chronologiquement, on va dire que à l'enfance, là où souvent les familles sont un peu en mode « il faut coucher ses enfants tôt », etc. Moi, il n'y avait pas de souci, tu vois, c'était en mode vraiment genre la meuf dort comme une poule, c'est-à-dire le soleil s'est couché, c'est bon, elle va au lit, quoi. Et en gros, ce qui pouvait être, je pense à la base, un avantage quand t'es gosse, d'avoir ton enfant qui va se coucher par lui-même assez tôt, quand arrivaient par exemple les périodes de vacances, souvent c'était le truc de, techniquement tu peux genre te coucher un peu plus tard parce que c'est les vacances et nanana et tout ça, et je pense que tous les gosses se jettent sur cette occasion pour pouvoir traîner avec les adultes, quoi. Et moi en fait, je continuais à avoir cette espèce de rituel de vouloir quand même être seule tôt. Et des fois c'était pas genre tout de suite pour aller dormir, mais tu sais, c'était vraiment juste, moi j'ai besoin d'aller faire mon temps calme, tu vois, genre, et ensuite de faire dodo, tu vois. Et souvent, c'était le truc, tu sais, on te met tous les petits sobriquets en mode, bonne nuit, tu vas déjà te coucher, genre, et t'es là en mode, chiant, enfin, genre, bien sûr, quand t'as 6-7 ans et qu'on te dit ça, tu ne te réponds pas, chiant, tu vois, genre, tu dis juste, d'accord, mais c'est pas drôle, genre, voilà, et t'es un petit poussin, mais... En fait, c'était très culpabilisant. On avait l'impression de... Enfin, c'est comme si on me disait « Oh là là, tu sais pas profiter des bonnes choses de la vie » ou alors « Tu veux pas profiter du temps avec nous alors que t'en as le droit. » Et je pense que les gens ne voulaient pas valoriser le fait de vouloir passer du temps seul alors que je pense que c'est important. Et du coup, après, il y avait aussi... Deux images, parce que par exemple, elle, ma sœur, qui aimait bien rester genre socialement avec les autres, qui a une batterie sociale beaucoup plus colossale, je pense, que la mienne, du coup, forcément, je pense que ça faisait un peu deux salles, deux ambiances, entre celle qui est présente et qui machin, et puis l'autre qui est un peu en mode moi, j'aime bien aller dormir et être toute seule. Du coup, voilà.
Donc, du coup, en famille, ça se gère comment, finalement ?
À l'enfance, il y avait vraiment ce petit surnom bonnet de nuit qui me poursuivait un peu partout. Mais avec le temps, tu sais, t'en rigoles. Et en même temps, c'est le rire un petit peu crispé où tu te dis c'est marrant, mais vous foutez un peu de ma gueule quand même. Et puis vous êtes en train de me faire comprendre que comme si c'était quelque chose de pas très cool. Et du coup, tu te poses un peu des questions sur toi-même. C'est là où je vois où tu commences déjà à remettre en question socialement ce que ça représente d'aller se coucher avant les autres, tu vois. Et du coup, après, en famille, je sais que typiquement, mon père n'a pas un sommeil folichon non plus. Après, je pense, il y a moult raisons à ça, mais genre, par exemple, il est team lève tôt, je tiens clairement de lui. Ma mère est plutôt à la base une team lève tard et ma sœur aussi, donc tu vois, on a chacune genre récupéré un morceau, tu vois, de des parents en fait, et du coup voilà. Mais par exemple, ma mère, ça lui arrive de temps en temps de faire une insomnie, mais c'est vraiment, tu vois, genre une fois tous les 3 mois, j'en sais rien, et puis tu vois, elle a mal dormi, elle le dit et tout ça, et avec le temps on en parle un petit peu, mais tu sais, c'est toujours un peu la même rengaine, tu sais, cette espèce de dialogue qui sert à rien de... Des fois, quand on se parle au téléphone, genre, on n'est pas des très grands communicants dans la famille. Je le suis beaucoup plus avec mes amis, mon couple, tout ça. Mais avec la famille, c'est compliqué. Et du coup, de temps en temps, quand même, il y a la fameuse question qui tombe au téléphone de « Hey, tu dors comment en ce moment ?» Parce que c'est un sujet quand même. Et tu sais, je suis là en mode « Bah, c'est pas ouf, mais voilà quoi. » Enfin, tu sais, en mode un peu résignation. Et en même temps, je me vois pas lui dire « Bah, j'ai juste fait le hibou pendant 8 heures, c'était super !» Et en fait, tu sais, c'est toujours la même réponse en face, en mode « Ah, oh, bah, c'est con quand même que tu dormes si mal !» Oui, c'est con, c'est sûr, oui, c'est une fatalité, genre. Mais je me rappelle aussi de ma mère, une fois, qui m'avait pris un petit livre. Ne faites pas ça, vraiment, genre. Ça part d'une bonne intention, mais tu sais, c'était le petit livre « 10 minutes pour bien s'endormir », et t'es là en mode « Non, mais en fait, ça ne réglera pas ma vie. » Genre, ça va juste m'énerver, tu vois, de lire ce truc, tu sais, en mode, ils te disent « Mettez de la brume, de lavande sur votre oreiller et tout ira mieux. » Et t'es là en mode « Mais les bros, j'ai 12 000 huiles essentielles à la maison. » Ça n'a jamais réglé mon sommeil.
Danser nu à la pleine lune. Oui. Je suis presque sûre que ça fonctionne.
Je pense que ça fonctionne. Sacrifier un poulet au milieu de votre salon, genre faites un petit saut à cloche-pied autour, roulez-vous dans du jambon et... Non mais je sais pas, tu sais, genre c'est vraiment le truc où t'es là en mode, bah enfin non, il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas 12 000 trucs miraculeux et je pense qu'en vrai c'est plus quelque chose que je devrais aborder... plus, ouais, genre chez des professionnels de santé, et peut-être qu'il y aurait des pistes à avoir et des trucs, mais bon, comme je ne passe toujours pas le cap, voilà, je ne le sais pas encore, mais en tout cas, voilà, les petites sollicitations en mode tiens, ce livre va être super, il va révolutionner ton sommeil, je suis un peu en mode non, non.
Bah, on retrouve toujours, enfin, moi je sais que ça a été ça aussi de mon côté pour l'anxiété, il y a toujours ces questions très pratiques. Mm. De non, mais en fait, il y a un problème, on va trouver une solution.
Oui.
Et je le retrouve souvent quand j'en parle avec des amis sur différents troubles, que ce soit alimentaire, sommeil, troubles anxieux. Ça revient souvent le mais je ne comprends pas, c'est pourtant simple.
Oui.
Tu n'as qu'à dormir, ou tu n'as qu'à manger,
oui.
Ou tu n'as qu'à faire ça, et non, cette fois, tu n'auras pas peur, c'est sûr. Enfin, et en fait, malheureusement, c'est quelque chose qui échappe beaucoup, et en même temps, je pense que c'est très frustrant pour les parents. Parce qu'en fait, il n'y a pas de solution. Enfin, en tout cas, la solution, c'est nous qui allons la trouver à notre rythme, avec nos méthodes, nos moyens également, parce que bah, ça coûte aussi de l'argent, une prise en charge. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de patience. Et je pense que c'est très frustrant de voir aussi que son enfant est en difficulté et de voir qu'on ne peut rien faire.
Oui, c'est ça.
Et malheureusement, il faut apprendre à lâcher prise là-dessus, parce que bah, parce qu'il n'y a que nous qui avons la clé de tout ça.
Non mais c'est ça, parce qu'il y a un côté genre vraiment genre très mignon dans ces espèces de petits gestes qui sont là en essayant de t'aider, tu vois, je trouve ça, tu sais, il y a un côté, c'est ma maman, donc forcément je suis attendrie que, tu sais, elle essaye de me dire des petits trucs, tu vois, des petits conseils ou des petits machins, et en même temps, tu vois, je suis un peu là en mode, mais voilà, ça changera pas grand chose, tu vois, enfin... Tu peux me conseiller tel truc, mais je sais déjà que ça ne fonctionne pas parce que j'ai fait moi-même des recherches de mon côté sur ces choses-là. Et voilà. Donc, c'est, je pense, dur pour eux, comme tu dis, d'accepter que bah, tu n'auras pas d'emprise, d'impact, tu ne seras pas la bouée pour ton gosse à ce moment-là. Mais en fait, il va falloir le laisser genre, faire ses recherches, ses trucs, et accepter qu'il va évoluer. Et faire son chemin seul, tu vois.
Et qui peut aussi faire sa vie comme ça, et ça peut aussi très bien se passer.
Aussi, voilà. Effectivement.
Il y a aussi ça. Donc après, tu as quitté le domicile familial.
Exactement.
Et tu t'es installée avec ton premier copain. Enfin, t'as déjà eu quelques expériences de couple avant ça. Du coup, j'aurais aimé avoir ton retour par rapport au fait de gérer ces troubles avec ton ou ta partenaire.
Bah, en gros, si on reprend chronologiquement... au début, parce que j'ai eu des couples assez tôt, on va dire, enfin ado, et au début ça se posait moins la question du sommeil, etc. Plus la question des sorties, mais parce que bon, bref, genre, tu sais, la personne, si elle est un peu plus âgée que toi, elle commence déjà à faire des sorties, et toi, bah, t'es encore plus jeune, donc tu ne fais pas de sorties, donc voilà, genre, il y avait un peu ce rapport-là où c'était un peu compliqué, mais. Pour le sommeil, je me suis rendu compte avec le temps que c'était aussi important de trouver quelqu'un qui a des fois un peu le même rythme que moi. Ça n'a pas toujours été le cas, clairement. J'ai déjà été avec quelqu'un qui était plutôt du genre à vivre la nuit. Et moi, je ne l'ai jamais reproché au début parce que j'étais vraiment en mode, en fait, chacun son rythme, chacun fait sa vie, son truc. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, tu te rends bien compte dans la relation que si vous avez complètement des rythmes opposés et que vous pouvez jamais vous rejoindre sur quelque chose, ça vient, au bout d'un moment, c'est corrosif et ça finit par s'effriter et c'est dommage, tu vois. Mais du coup, par la suite, je sais que avoir quelqu'un qui pouvait se caler à peu près sur mon rythme et se dire « Ouais, j'ai plutôt envie d'aller me coucher un peu tôt et tout », c'était « Waouh !» C'est un critère de taré pour moi, tu sais, alors que c'est un peu nul. Mais genre vraiment, tu sais, il y avait un truc satisfaisant de se dire « Je sais très bien que cette personne jamais ne me reprochera d'avoir envie d'aller dormir tôt ». Tu vois, et enfin, ça paraît genre vraiment très bas comme critère, mais genre vraiment c'était un truc où j'ai pu sentir que c'était un reproche même quand il était jamais forcément formulé, voir que ça pouvait être handicapant dans la relation, c'est toujours blessant. Et puis toi t'essayes de faire des efforts, mais en fait tu te forces à faire quelque chose encore une fois que tu ne veux pas, et c'est pas ok. Et voilà, d'où le fait que je disais tout à l'heure qu'il faut savoir s'écouter et poser ses limites et savoir ce qui nous convient ou pas, etc.
C'est vrai que c'est une question qui me travaille beaucoup, le rapport au couple, quand on doit gérer ses propres troubles psychologiques. C'est pour ça que j'en parle avec toi. Parce que je me suis toujours plutôt posé la question, est-ce que c'est un frein dans la relation ? Donc est-ce qu'on va avoir le choc d'une compréhension plus compliquée, un manque de confiance en soi, qu'elle est à ses troubles et du coup qui va être un frein potentiellement dans la relation ? Ou au contraire, un facteur de rapprochement, parce qu'un besoin de cadre, de soutien et d'écoute.
Je pense que ça peut être littéralement les deux. C'est-à-dire que, en fonction de la personne avec qui tu te mets, etc., je reprends l'exemple d'un de mes anciens copains qui avait plutôt tendance à vivre la nuit. Du coup, des fois, moi, en insomnie, je me réveillais et lui, il était toujours réveillé, sur l'ordi, en train de jouer, faire un truc, etc. Du coup, j'allais dire 2-3 mots avec lui parce que de toute façon, j'étais réveillée, machin. Après, j'essayais désespérément d'aller me rendormir et lui, à 7h du mat', il venait se coucher et en fait, il faisait sa meilleure nuit. Et moi, j'étais là en mode, moi, je commence ma journée, là, tu vois, et je vais pas redormir. Donc, du coup, c'était un peu... Là, pour le coup, il y avait un côté sur la durée, c'est un frein parce que... On vit pas la même réalité, le même monde, le même... Enfin, tu sais, il y avait plein de trucs comme ça où tu te dis, c'est dommage, mais ça, sur le long terme, ça fonctionne pas, tu vois. Et là, tu vois, dans ma relation actuelle, je vois vraiment que c'est... Enfin, il y a un soutien, il y a une écoute, on en discute. Enfin, la personne sait quand ça va pas, ou quand je dors mal ou machin, qu'on peut en discuter. Et en même temps, on est aussi un peu calé plus sur le même rythme, donc ça aide beaucoup aussi.
Et pour ce qui est des amis, comment ça se passe ? Parce que pour le coup, tu ne vis pas avec eux, donc est-ce que t'en parles avec tous ou pas ? Comment tu gères du coup tes sorties, vu que comme tu l'as dit plus tôt, tu sors assez peu ? Bon, tu sors assez peu. C'est assez relatif. Pour le coup, pour sortir avec toi, tu sors quand même assez régulièrement. En tout cas, tu sors beaucoup plus que tu l'as fait quand on s'est connus au tout début.
Ouais. Enfin, je sors plus. Enfin, dans tous les cas, je sors toujours plus la journée. La journée, j'ai pas de mal à faire des activités. C'est plus le soir. En fait, si je devais corriger ce que j'ai dit au début, ce serait vraiment. Les sorties concernent des soirées. J'ai vraiment plus de mal. Et l'anxiété, les batteries sociales jouent vachement. Et par contre. Sortir en journée, comme je disais, je suis quelqu'un qui vit la journée, donc j'ai moins de mal à le faire. Je suis plus en mode ok, c'est bon, let's go, tu vois.
Mais du coup, tes troubles, ils ont influencé l'évolution de ton cercle social ou pas du tout?
Oui, considérablement. Pour le coup, je fais une petite rétrospective dans ma tête, mais je sais que là où j'ai pu vachement subir des fois ce trouble et le rapport que j'en avais avec les autres, etc. Là où, tu vois, par exemple, la période du lycée, où c'est le moment où tu fais tes premières soirées, tes premiers trucs, etc., tu peux pas être fatigué. T'as pas le droit d'être fatigué, t'as pas le droit d'avoir envie d'aller dormir. Parce qu'en fait, tu dois profiter à balle, tu dois te mettre une caisse, tu dois, c'est comme si t'allais louper quelque chose, vraiment. Et je sais que beaucoup de monde l'a ressenti comme ça pour les soirées, même sans avoir de troubles du sommeil, genre juste se dire il faut être à l'événement parce que c'est un peu l'événement du siècle. Pas du tout, mais voilà, genre. Et du coup, j'ai eu l'euphorie du début des soirées, vraiment à me dire ouais, c'est trop bien, puis tu te sens un peu plus indépendant et machin, et puis tu profites, t'es avec tes potes, c'est chouette, blablabla. Et j'ai été très vite rattrapée par le col, par mes problèmes de sommeil. En mode, bah en fait, là, les gars, genre, je cumule tellement, ma dette de sommeil est tellement colossale que, en fait, je vais venir et je vais être aigrie. Genre, et du coup, bah, t'as pas envie de ça, en fait. Et du coup, tu te prives, entre énormes guillemets, mais tu le fais pas de la bonne manière. C'est-à-dire que tu dis pas aux gens, ouais, là, enfin, vraiment, je dors trop mal, j'ai pas assez dormi, je vis mal mes trucs et tout, et ça va pas. Du coup, je préfère pas venir et je préfère me reposer. Jamais de la vie, à 16-17 ans, j'aurais sorti ça. Genre, la phrase, c'était... Bah, je peux pas parce que j'ai déjà tel truc, ou j'ai un truc à terminer pour les cours, ou je suis malade. Enfin, tu sais, tu te sors plein d'excuses un peu bidons pour juste pas passer pour la personne qui ne veut pas aller en soirée. Et ça, c'est horrible. Et vraiment, enfin, encore une fois, écoutez-vous. ne faites pas des trucs par défaut, soi-disant, parce que vous devez à tout prix être présent à l'événement ou quoi. Acceptez le fait que... Et faites en sorte de vous entourer de gens qui acceptent le fait que bah, vous ayez vos limites, vos envies, vos batteries à vous, etc. Mais du coup, voilà. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, ça a fait évoluer mon cercle. Je me suis éloignée de certaines personnes qui ne le comprenaient pas et qui étaient toujours dans cette espèce d'euphorie de la fête, que je peux comprendre aussi et que je respecte. Hein, genre chacun, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais t'as vraiment... mais j'ai vraiment... Je suis vraiment allée vers des gens qui étaient tolérants, en fait. Avec le temps, j'ai trouvé un cercle de gens tolérants qui sont à l'écoute, qui te comprennent, et avec qui tu peux discuter de ces choses-là sans être jugé, et qui te parlent de leurs trucs aussi. Et mutuellement, il y a un échange, un partage, et tout est safe, tu vois.
Donc aujourd'hui, c'est cool.
Aujourd'hui, c'est très cool.
Bon, eh bien, la troisième partie touche à sa fin. Donc on va arriver à la conclusion. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souffrirait des mêmes troubles que toi, quel que soit son âge, d'ailleurs. Une bonne...
un bon panel de gens.
Un bon conseil général pour toutes ces personnes.
En vrai, je vais rester dans la même ligne de à peu près ce que j'ai dit pendant l'épisode. Soyez à l'écoute de vous-même. Respectez-vous. Respectez vos limites et vos choix. Faites le tri, si c'est nécessaire, de gens qui sont pas aptes à vous comprendre et à vous accepter. Entendez ce que les gens ont à dire, bien sûr, mais si ça ne vous convient pas, si ça vous met la pression, si vous faites ça par devoir et pas par envie, alors c'est une mauvaise chose, et du coup prenez le temps, prenez du recul sur vous et sur ce que vous souhaitez vraiment. Voilà.
Merci Lou.
Merci à toi.
C'était le premier épisode dans Nos Troubles. Rendez-vous dans 2 mois pour une prochaine rencontre sur Radio Campus Paris 93.9 FM.